France Culture.
Les nuits de France Culture.
La ville de Compiègne est surtout connue dans l'histoire militaire pour être le lieu de signature de deux armistices bien différents, celui de 1918 et celui de 1940 avec l'Allemagne nazie, Hitler ayant tenu à humilier les Français en faisant reconnaître leur défaite sur le même lieu où ils avaient été vainqueurs 22 ans plus tôt. Mais Compiègne est aussi la commune du camp de Royallieu, seul camp d'internement français placé dès le début sous l'autorité de l'armée allemande. C'est sans doute l'une des pièces les plus importantes sur le sol français du mécanisme génocidaire et totalitaire mis en place par les nazis. C'est un camp de transition où passent plus de 54 000 personnes, qu'elles soient juives, tziganes ou encore résistantes, avant d'être envoyées en train vers les camps de concentration et d'extermination. C'est de là, par exemple, que part le 27 mars 1942 le premier convoi de la France vers Auschwitz, emmenant plus de 1000 juifs vers leur mort. Malgré ce rôle central dans le système concentrationnaire, le rôle du camp de Compiègne est assez peu connu du grand public, et même des historiens. Ce troisième de 27 épisodes du monde concentrationnaire présente le camp de Royallieu à Compiègne comme une véritable plaque tournante du système génocidaire nazi, avec les témoignages de Pierre Dex, Paul Esneau, Gérard London, Marcel Paul, Christian Pinault, André Ullmann et André Verdet. Une émission de Francis Crémieux, diffusée pour la première fois le 27 avril 1965 sur France Culture.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands. Une émission de Francis Crémieux. Aujourd'hui, Compiègne Triage, avec Pierre Dex, Paul Esneau, Gérard London, Marcel Paul, Christian Pinault, André Ullmann, André Verdet.
Pour des raisons évidentes de sécurité, la résistance française, ses partis, ses mouvements, ses réseaux étaient cloisonnés. Cloisonnés verticalement, cloisonnés horizontalement. En prison, dans les camps, ce cloisonnement avait pour ainsi dire disparu. En vérité, la répression française, comme la répression allemande, faisait une distinction. C'est ainsi, par exemple, que les résistants convaincus d'avoir reconstitué le parti communiste étaient jugés, la plupart du temps, par des tribunaux français qui utilisaient un arsenal juridique datant du début de la guerre. C'est ce qui explique que beaucoup de communistes aient été concentrés dans des prisons centrales françaises et quelquefois séparés des gaullistes parce que les gaullistes, eux, ne se voyaient pas appliquer un décret-loi ou une loi antérieure à l'occupation. Mais à Compiègne, tous les courants se rejoignaient. Cette prise de contact, évidemment, n'allait pas sans l'observance des règles de la clandestinité. Et il reste qu'il y avait toujours, non pas une méfiance, mais une certaine vigilance entre ces hommes qui devaient apprendre à se connaître et qui devaient aussi ne jamais oublier que l'ennemi pouvait avoir glissé dans leur rang des mouchards ou des moutons. Ajoutez à cela que beaucoup d'hommes arrêtés n'étaient pas des résistants, étaient des patriotes ou des malchanceux, ils avaient été raflés au cours d'opérations de police, ajoutez à cela les droits communs, ajoutez à cela parmi les droits communs, des hommes qui avaient été les auxiliaires de la police allemande, de la Gestapo, et qui avaient volé les Allemands, et qui étaient autant de mouchards en puissance. La résistance française avait organisé, à l'initiative du Conseil national de la résistance, un secteur très important de la lutte contre la déportation qui s'appelait le CAD, Comité anti-déportation. Mais le CAD était surtout un comité qui avait pour but de procurer des faux papiers et des planques à des jeunes qui auraient pu être raflés pour le service du travail obligatoire. Par contre, la résistance française avait un mouvement qui s'appelait le Mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés, qui tentait d'organiser en Allemagne même la résistance de ces prisonniers et de ces déportés. André Ullmann est un des responsables de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il s'est créé ?
Eh bien, il s'est créé, pour ainsi dire, spontanément, dans les camps de prisonniers de guerre, avec un certain nombre de camarades, dont, par exemple, le neveu du général de Gaulle, que nous appelions Charette, et qui nous a servi ensuite de lien avec certains mouvements de résistance.
Que vous appeliez Charette, mais qui s'appelait de Gaulle.
Non, qui s'appelait Caillot. Nous avons mis sur pied un mouvement de résistance à l'intérieur des camps de prisonniers, et en particulier au Stalag 11B, où nous avions monté une organisation destinée surtout à faciliter, par les moyens les plus divers, les évasions des camps de prisonniers.
Vous êtes rentré en France à quelle époque ?
Je suis rentré en France au début de 1943. Et à ce moment-là, nous avons vraiment mis sur pied, à partir de la France, un mouvement de résistance destiné aux prisonniers et aux déportés. C'est devenu le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, le MNPGD, qui a laissé une certaine trace dans la résistance.
Je crois me souvenir qu'un certain nombre de résistants avaient eu cette idée, qui est, semble-t-il, simple, que, étant donné le nombre de prisonniers de guerre de tout pays et de déportés du travail, pour ne pas parler des déportés politiques, il y avait en Allemagne un véritable cheval de Troie.
C'était tellement vrai que nous avons travaillé sur l'idée qu'il fallait nourrir le mouvement de résistance à l'intérieur de l'Allemagne avec les principes mêmes de la résistance intérieure que nous connaissions en France.
Est-ce que, en septembre 1943 à Lyon, les liaisons que vous aviez eues avec l'Allemagne vous permettaient d'avoir une idée de ce qu'étaient les camps d'extermination ?
J'avais si bien une idée de ce qu'étaient les camps d'extermination que j'avais eu l'occasion, d'une part, de faire, comme c'était mon rôle, un rapport très long pour Londres, puis pour Alger, sur la situation exacte des camps de concentration, et que d'autre part, j'avais publié dans la presse clandestine un reportage sur les camps de concentration.
Et sur quel camp aviez-vous des renseignements ? Comment ?
Par deux sources. La première source était d'avant-guerre, sur Dachau, et ensuite, nous avions eu une série d'autres sources sur les camps de concentration allemands, en particulier par les agents que j'avais pu envoyer en Allemagne pour le réseau sur l'Allemagne du mouvement de résistance des prisonniers et déportés.
Est-ce que vous aviez des renseignements sur Auschwitz ?
Nous avions des renseignements sur Dachau, par conséquent. Auschwitz, Buchenwald.
Compiègne, 1943-1944, notre premier témoin, André Verdet.
À Compiègne, c'est là que j'ai retrouvé la résistance. Et le premier jour, j'ai retrouvé certains amis qui avaient été arrêtés en même temps que moi, et notamment le poète Desnos, puis d'autres. Et là, tout de suite, le mouvement s'est fait sentir. De nouveau, la lutte continuait. À Compiègne, nous avons commencé à nous classer par mouvement. Libération, combat, défense de la France, parti communiste, etc. N'est-ce pas ?
Est-ce que vous avez une idée de ce que seraient les camps ?
Absolument pas, malgré une autre presse clandestine qui disait toute l'horreur des camps. Mais surtout, il y avait cette terrible piège tendue par les Allemands, piège moral, sournois, perfide. Les officiers SS ou les sous-officiers, même les soldats qui devisaient avec nous, nous disaient, oh, vous savez, dans le camp, vous allez travailler. Et puis il y avait persistante, n'est-ce pas, ce on-dit, nous serions transformés en travailleurs libres.
Et vous pensiez peut-être aussi que les camps en Allemagne ressemblerait à ce qu'était Compiègne.
Oui, c'est ça, parce que tout de même, Compiègne, c'était pas si mal que ça. Nous sortions, il y avait une cantine, on recevait des colis, des lettres, n'est-ce pas ? Et on se disait, bah, en effet, si tous les camps sont comme Compiègne, la vie est belle.
Compiègne, 1943-1944, notre second témoin. Un homme qui a vu le général de Gaulle à Londres au début 1942. Un homme qui a vu presque mourir sous ses yeux Jean Moulin, le président du Conseil national de la Résistance, alors qu'il était arrêté au Fort Montluc à Lyon. Un homme que l'on connaissait à Compiègne sous le nom de Grimaud et que l'on a connu pendant toute la déportation sous ce faux nom, mais un homme qui s'appelle en réalité Christian Pinault. Monsieur Pinault, quelle impression vous faisait Compiègne après les mois passés au Fort Montluc?
Ah, c'était le paradis, n'est-ce pas? Nous faisions à peu près rien, nous jouions aux cartes, et surtout, nous avions une vie commune. C'était la fin de la cellule, pour moi c'était capital.
Vous avez senti l'existence d'une organisation qui avait des liaisons avec l'extérieur, une organisation de résistance, ou de plusieurs organisations à Compiègne?
Oui, il y avait incontestablement une organisation du camp, mais je n'ai pas l'impression qu'elle ait joué un rôle capital. Je n'ai pas connaissance de grandes évasions qui aient été réalisées à Compiègne. La plupart des évasions spectaculaires ont été faites au cours des transports.
Compiègne, 1943-1944, notre troisième témoin, Paul Esnault, qui avait passé plusieurs années dans une prison centrale française. Monsieur Esnault, Compiègne, pour vous, ça a dû être un grand changement.
Oui, ça nous a un effet, une espèce d'ivresse d'ailleurs.
Est-ce que vous avez trouvé une organisation dans le camp?
Ah oui, mais d'ailleurs, Compiègne, c'est très particulier en ce sens qu'on n'y restait pas longtemps. C'était le transit, on y restait une quinzaine de jours. Comme tout le monde ne partait pas en même temps, c'était des fractions de l'effectif total qui partait. On pouvait prendre certains contacts, mais ça prenait un certain temps. Les choses n'avaient pas le même caractère.
Racontez-moi Compiègne.
On savait qu'on partait en Allemagne, mais on savait pas où. Et ça, c'est absolument impossible à savoir. Quelques Allemands avec qui nous avions affaire nous racontaient un tas de choses, qu'on irait dans les bois, qu'on vivrait une vie de bûcheron, une vie en plein air.
Vous y croyez?
Non. À Compiègne, nous étions très mêlés. Il y avait les politiques, les résistants, il y avait aussi des gens qui avaient été raflés, moins avertis probablement, certainement même, de la réalité de la lutte. Il faut bien reconnaître que ce que l'on sait maintenant, ce que l'on a su par la suite sur l'extermination, on avait du mal à se représenter ça. Même nous étions un certain nombre à connaître l'existence, non pas des chambres à gaz, mais des gaswagen, c'est-à-dire les camions à gaz. Nous avions eu des documents qui nous avaient éclairés sur la question. On savait que ça se passait sur le front Est, mais l'on ne savait pas encore que c'était organisé d'une façon systématique, rigoureuse, dans des camps de concentration à l'intérieur de l'Allemagne.
Il y a eu des évasions de Compiègne avant votre arrivée.
Il y a eu des tunnels. Mais enfin, la réalisation d'un tunnel nécessite des semaines et des semaines de travail, et nous n'y étions que pour une quinzaine de jours. Alors nous pensions bien sûr à l'évasion en cours de route.
Et vous la prépariez?
Et nous l'avions préparée.
Sans doute, l'évasion, la belle, était la pensée quotidienne de tous ces captifs. Mais il savait pourtant qu'il ne réussirait pas obligatoirement. Notre quatrième témoin, Gérard London, va nous dire ce à quoi il se préparait si l'évasion ratait.
Nous avons reçu des consignes très précises sur l'action que nous devions mener dans les camps de concentration en Allemagne, consignes qui venaient du Comité national de la résistance.
Si vous permettez, je vais lire quelques têtes de chapitre de ces consignes. Premièrement, organisation politique sous toutes les formes des Français dans le camp. Organisation militaire en vue de la participation des Français à la lutte armée lors de l'avance des Alliés. Il ne faut pas oublier que ces consignes sont datées de février 44. Oui. Troisièmement, organisation de la solidarité nationale pour les Français. Quatrièmement, prise de contact avec les responsables des différentes nationalités internées. Cinquièmement, organisation d'un comité politique international en vue de diriger et de coordonner les actions politiques des différents groupes nationaux. Sixièmement, organisation d'un comité militaire international afin de préparer et de diriger l'action armée des différents groupes nationaux. Septièmement, organisation systématique du sabotage dans tous les secteurs vitaux. Huitièmement, envoi d'émissaires des différentes nationalités dans les différents commandos afin d'organiser les différents groupes nationaux sur les mêmes bases. Telles étaient les consignes qui vous sont transmises et par le mouvement des prisonniers et par les communistes avec qui vous avez repris contact. Ce sont les mêmes.
Ce sont les mêmes.
Mais vous n'aviez naturellement à Compiègne, en février 44, aucune idée de ce que pouvait être la vie dans un camp.
Nous étions loin de réaliser de ce que nous attendait.
André Hulman, Est-ce que ces consignes poussent des racines dans votre mouvement ?
Eh bien, je ne vous cacherai rien en vous disant que ces consignes, j'avais très largement participé à leur élaboration, avec la préoccupation principale de saboter la machine de guerre allemande d'une part, et d'autre part, de préserver dans la plus large mesure possible de la destruction les prisonniers, les déportés et les travailleurs étrangers qui se trouvaient en Allemagne. Ces consignes venaient d'être approuvées par le CNR au mois d'août 1943. Et quelque temps après, j'ai pu aller sur place expérimenter l'application de ces consignes. Et je les ai apportées à Compiègne et ensuite à Mauthausen.
Compiègne 1943-1944, notre sixième témoin, Marcel Paul. Monsieur Marcel Paul, est-ce qu'il y a eu effectivement un étonnement chez vous à votre arrivée à Compiègne?
C'est certain. Pour des hommes qui, depuis des années, n'avaient connu que les murs des cachots, ou alors l'encadrement d'un bagne, voir le ciel, pouvoir marcher, enfin marcher, cela donnait la sensation de revivre. Personne n'avait encore d'informations précises sur ce qu'étaient les camps de concentration, mais nous ne pouvions supposer que notre transfert en Allemagne allait signifier une partie de plaisir.
Est-ce que vous avez senti à Compiègne qu'il y avait dans cette population déjà des catégories?
À Fontevraud, à Blois, comme à Poissy, comme à Melun, comme à Clairvaux, c'était des résistants, des communistes, des hommes de gauche, et des gens qui s'étaient levés pour livrer le combat à l'envahisseur. Le contact avec les couches plus larges de Compiègne a posé des questions.
Vous avez vu des gaullistes à Compiègne?
Sûrement. À Compiègne, il y avait des gaullistes. Il y avait des patriotes raflés, mais il y avait aussi des combattants gaullistes qui avaient ou non coopéré dans le combat avec les communistes. Et je me rappelle le doyen, un général basque, qui avait beaucoup d'allure et qui avait un sens très élevé du devoir et avec lequel nous avons entretenu les meilleurs rapports, près duquel nous nous sommes ouverts de nos projets d'évasion. C'était beaucoup plus compliqué encore à Compiègne, mais enfin, il y avait des projets. Notre comportement, comment se tenir en commun pour que les Français fassent montre de leur unité face à l'ennemi.
Donc c'est à Compiègne que l'unité de la résistance se reforme. C'est là que vous allez commencer à jeter les bases de ce que va être l'action unie dans les camps.
Oui, oui, oui. Et les convois qui partaient, les hommes qui étaient rassemblés la veille, placés dans le camp C pour la nuit du départ, étaient là de toute opinion. Les discussions établissaient comment il était possible de former des groupes pour tenter l'évasion en cours de route, et pour rester unis dans les lieux vers lesquels les hommes étaient emmenés. Et une solidarité naissait, une solidarité combattante, une solidarité, je dirais, patriotique naissait, qui faisait de ces hommes des soldats de la même cause, sans aucune différenciation alors, là, chez les véritables combattants, de leurs origines politiques ou sociales.
Certes, ils étaient tous des soldats de la même cause, mais des soldats plus ou moins expérimentés. Et dans cette phalange, les anciens bagnards avaient des réflexes plus rapides, une expérience plus grande. Notre septième témoin, Pierre Dex.
Il y avait en face de nous un train de wagons à bestiaux. Et au bord du quai, pas au bord du quai côté train, il y avait une haie de gens portant le brassard du SD, du Sicherheitsdienst, avec chacun des trics de 80 cm, et qui faisaient la haie. Notre convoi est arrivé bien tranquillement entre la haie de gens
avec les trics et les wagons.
Et puis, il y a eu un ordre. Il y avait beaucoup de résistants qui avaient été arrêtés par les Allemands, qui avaient été torturés, qui avaient été passés par la santé allemande ou Fresnes. Ceux qui avaient déjà connu ça étaient ceux qui avaient immédiatement visé la place qu'il y avait entre le gourdin et l'entrée dans le wagon. Tandis qu'au contraire, vous aviez des gens qui étaient persuadés qu'il y avait un malentendu, Quand on nous a mis tout nus au passage de la frontière allemande parce qu'il y avait des tentatives d'évasion, dans le wagon où je me trouvais, il y a quelqu'un qui a mis tout simplement cette idée qu'on devait mettre d'un côté les résistants ou les gens qui avaient été déjà condamnés, et de l'autre côté les gens comme lui qui n'avaient rien fait pour que les Allemands ne se trompent plus au prochain arrêt. Vous comprenez, c'était des idées qui avaient cours.
Monsieur Christian Pinault, alias Grimaud, 3 semaines après votre arrivée à Compiègne, vous êtes déporté. Et c'est là, peut-on dire, que commence vraiment l'univers concentrationnaire, dans les wagons.
Je dois dire que quand nous nous sommes trouvés devant ces wagons de marchandises et qu'on nous a fait monter 10, 20, 30, 40, 50, vers 50, nous avons commencé à être surpris, puis jusqu'à 100, et que nous sommes trouvés tous debout, sans possibilité de nous asseoir, nous avons eu un moment de panique. Nous nous attendions presque à voyager dans d'honnêtes wagons de 3e classe. Et c'était malheureusement pas ça. Et puis alors, au cours du voyage, ce n'est pas la faim qui nous a torturés, mais la soif. Un voyage qui a duré tout de même plus de 2 jours, sans boire une goutte de quoi que ce soit, c'est extrêmement dur, sans possibilité de s'asseoir. Et comme à un moment donné, il y a eu un certain nombre de détenus qui avaient réussi à percer des trous dans les wagons et à sauter sur la voie, alors les SS, dans une gare près de Nancy, nous ont fait descendre. Ils ont enlevé 1 ou 2 wagons qui avaient été percés et nous ont mis à 120 par wagon. Et nous avons traversé l'Allemagne, depuis la Sarre jusqu'à Weimar, à 120 par wagon, toujours sans boire. Alors là, il y a eu vraiment des scènes qui n'est peut-être pas utile de décrire, mais qui étaient assez épouvantables. Il y a vraiment des gens qui sont devenus fous. Et il y avait eu beaucoup de morts.
Vos camarades de wagon, qui étaient-ce ? Des résistants, des raflés, des droits communs, un mélange ?
Ah, ceux du wagon, je suis bien incapable de vous dire quel était le pourcentage des uns ou des autres. C'est seulement plus tard au camp, quand nous les avons mieux connus, que nous sommes arrivés à déceler leur origine. Mais dans le wagon, c'était des inconnus.
C'était La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Assistant, Gilbert Maurice Duprez.
C'était Compiègne Triage, le 3e de 27 épisodes de la série Le Monde Concentrationnaire. Première diffusion le 27 avril 1965 sur France Culture. À suivre.